prédication. L'Église de Jésus-Christ. Car c'est de l'Église que j'ai à cœur de m'entretenir avec vous ce matin. Et au fur que j'avançais dans la préparation de ce message, j'ai réalisé que ce titre n'était pas juste. Parce que les Écritures parlent de l'Église de Dieu. Donc je me suis empressé de rectifier. Je bénis Dieu pour son esprit qui veut nous conduire dans toute la vérité. Et le prédicateur, même s'il est occasionnel, comme je le suis ce matin, doit avoir les mots justes, les expressions justes, les références justes. Alors nous allons faire deux lectures, si vous voulez bien, pour commencer. La première, dans Matthieu, chapitre 16, au verset 13. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je ? Au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. » Et puis, une deuxième lecture, dans 1 Pierre, chapitre 2, à compter du verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. L'Église est l'œuvre de Dieu. Nous avons lu « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et aussi « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Deux mots grecs différents pour ces deux mots Pierre. Tout d'abord « Petros » qui est le prénom. Et « Petra » qui veut dire « roc », ce qui donne comme traduction et sans aucune équivoque possible, « Tu es Pierre », donc le prénom Pierre, la personne de Pierre, « et sur cette pierre, ce roc, je bâtirai mon église. » Pierre, apôtre n'ayant jamais été le chef de l'église, « et sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église » fait référence à l'affirmation que Pierre vient de faire à Jésus, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est sur cette affirmation, cette déclaration, que l'Église de Dieu se construira et s'édifiera tout au long des siècles. L'Église est l'œuvre de Dieu. Elle est le grand chantier de Dieu dans lequel, mes amis, Dieu s'investit, y mettant tout son cœur et toute son énergie. De ce vaste chantier, il nous est dit qu'il est l'architecte et le constructeur. C'est le mot « tecton » qui est employé en grec. Cela me réjouit fort, et vous aussi certainement, de ce qu'aucun homme, aucune femme ne peut se prévaloir du titre de bâtisseur de l'Église de Dieu. L'Église est à Dieu, elle appartient à Dieu, elle est sa propriété. Est-il besoin de rappeler qu'au mieux, nous sommes faits ouvriers avec Dieu. Mais l'architecte et le constructeur, c'est lui. Amen. Dans le monde évangélique, aujourd'hui, les hommes y vont de leur couplet, hommes et femmes y vont de leur couplet. Ils font entendre une petite musique agréable. S'imaginant être les seuls détenteurs de la vérité, ils se donnent une foule de docteurs, d'enseignants, dont l'envie très souvent est de bâtir soi-même et d'en tirer gloire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, est-il écrit. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. C'est Babel. Dieu comprit que les hommes ne cesseraient d'avoir des projets fous et prétentieux. Aussi, il les dispersa sur toute la terre et confondit leur langage, d'où la multiplicité des langues et des dialectes. Mais faisons-nous un nom. L'homme cherche toujours ou souvent à se faire un nom. Mais revenons à cette Église de Dieu dont je voudrais vous parler. Sa définition, l'Église est formée de l'ensemble des croyants, toutes dénominations confondues, issues de la Nouvelle Alliance, et que le lien de la foi et l'action du Saint-Esprit unissent à Jésus-Christ. On est bien d'accord ? L'Église est issu de la nouvelle alliance que le lien de la foi et l'action de l'Esprit unissent à Jésus-Christ. Elle est un édifice, une maison spirituelle dont chaque croyant est une pierre vivante qui compose cet édifice. La pierre d'angle ou pierre de référence étant Jésus-Christ, selon 1 Pierre 2,4. Pour désigner cette église de Dieu, j'ai relevé dans les Écritures 3 expressions précises. 1. Édifice de Dieu, 1 Corinthiens 3,9. 2. Maison spirituelle, 1 Pierre 2,5. Et 3. Temple saint, Éphésiens 2, 19 à 21. D'ailleurs, nous allons faire une autre lecture. Éphésiens 2, versets 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et lui, tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Cela sous-entend clairement qu'il ne s'agit pas de bâtiment, de construction au sens physique, comme l'on peut trouver des temples bouddhistes, des temples protestants, mais bien d'une réalité spirituelle. Ces expressions « édifice de Dieu »,« maison spirituelle »,« temple saint » m'ont suggéré diverses pensées. Et nous nous poserons les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un édifice ? Qu'est-ce qu'une maison ? Qu'est-ce qu'un temple ? Alors, édifice de Dieu. La définition de l'édifice, un édifice est un ouvrage d'architecture de proportions importantes pouvant comporter plusieurs corps de bâtiments. Et si vous vous êtes un petit peu promené pendant les vacances, dans notre beau pays de France, vous avez pu faire le constat, comme nous l'avons fait, Agnès et moi, que nous possédons un grand nombre de monuments classés, monuments historiques. Il y a le Louvre, il y a l'Opéra, il y a le Parlement de Bretagne, il y a les Hospices de Beaune, il y a aussi le Château de Versailles et bien d'autres. Cet été, nous avons vu Chinon, nous avons vu Chenonceau et il faut reconnaître que c'est magnifique. Alors, qu'est-il écrit au sujet des croyants ? Ce que nous sommes. Vous êtes ouvrier avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Ni cabanon, ni baraquement, mais une construction en cours, faite de pierres vivantes. Alors on peut déplorer, des fois je me suis questionné là-dessus, qu'il y ait autant de dénominations évangéliques, mais les choses sont ainsi permises par Dieu. Un édifice est un ouvrage important pouvant comporter plusieurs corps de bâtiments. Toute dénomination évangélique, si elle s'édifie sur le credo suivant, à savoir que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, que Dieu l'a envoyé dans le monde pour sauver le monde, que le sang de Jésus est la seule garantie, et que Dieu l'a ressuscité des morts le troisième jour et qu'il est assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous, si c'est là notre credo, et si c'est là le credo d'une confession évangélique, aussi diverses qu'elles soient, ces dénominations, ces confessions forment l'édifice de Dieu. Elles sont, je le répète, à bon escient, la propriété exclusive de Dieu. Un édifice est un ouvrage d'architecture. Il devient, de par sa conception, sa destination et sa conservation, c'est-à-dire son entretien, le témoin d'une époque. Les châteaux de la Loire témoignent d'une époque et d'une vie royale au faste démesuré, ne serait-ce que du temps de Louis XIV. L'Église de Dieu est le témoin vivant d'une époque non encore révolue, appelée le temps de la grâce. Inaugurée par un fait marquant et à la portée universelle, est-il besoin de le rappeler, la mort de Jésus-Christ sur la croix. L'Église est le témoin de la grâce de Dieu et la vocation de cette Église est d'en témoigner en tout lieu, d'où on peut comprendre la multiplicité d'églises locales avec leurs spécificités et leurs sensibilités. C'est peut-être la réponse à ce questionnement que je me faisais par leurs spécificités, leurs sensibilités. Il y a multiplication de ces églises, comme pour atteindre, et c'est la volonté de Dieu, le plus grand nombre des hommes. Car Dieu, dans la volonté de Dieu, il y a cette volonté arrêtée de sauver tous les hommes. Et l'Évangile aujourd'hui est répandu jusqu'aux confins de la terre. Que ton nom soit béni. Aujourd'hui, dans le Maghreb, en Chine, en Corée du Nord, au Suriname. Nous étions dernièrement invités chez une amie chrétienne du Suriname et elle nous disait que, en grand nombre, dans ce pays qu'elle va voir régulièrement, car il y a sa famille, dans ce pays, les musulmans se convertissent en grand nombre. Alléluia! Pour l'œuvre du Saint-Esprit, pour l'action du Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit qui œuvre dans tous ces pays, il est présent au milieu de nous. Et ce matin encore, il nous a fait entendre la voix de Dieu. Alléluia ! Il est à l'œuvre. Alors, que ce soit des chrétiens du Maghreb, de Chine, de Corée, de n'importe quel pays, ce sont des âmes et des femmes différents. Mais ils forment avec nous l'Église de Dieu. Alléluia. L'édifice de Dieu, de par sa qualité, parle mieux que de savants discours empreints de religiosité. Il faut savoir que l'Église fait l'objet de toute l'attention de Dieu. L'Église étant son ouvrage et sa propriété, elle est ce que Dieu a de plus cher avec Israël dans son cœur. L'Église est ce que Dieu a de plus cher avec Israël dans son cœur. Deux peuples distincts, Israël qualifié de peuple terrestre et l'Église de peuple spirituel, destinés pourtant l'un et l'autre peuple à être réunis un jour pour n'en former qu'un. Mais preuve en est que Dieu chérit l'Église au retour de Jésus. C'est l'Église qu'il vient chercher. Alléluia. C'est l'Église qu'il vient enlever pour être introduite premièrement auprès de Dieu. Et comment sera-t-elle introduite ? Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable ou irrépréhensible. Amen. Et c'est ce que vous êtes, l'Église. Vous êtes cette Église, nous sommes cette Église. Maison spirituelle, deuxième point. 1 Pierre 2, 5, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Qu'est-ce qu'une maison ? Quelle est sa destination première ? La maison est un bâtiment construit pour abriter, servir d'habitation aux personnes. C'est l'endroit, le lieu où les membres d'une même famille se retrouvent pour se détendre, se reposer, se restaurer. Et normalement, toute activité fébrile est bannie. À la maison, nous veillons à ce que toute activité fébrile soit bannie. Et s'il y avait des gens un petit peu trop agités ou violents, que sais-je, qui viendraient à franchir le seuil de notre maison, je pense que nous prions de bien vouloir se retirer, car on doit veiller à ce que la paix règne dans nos maisons, dans nos foyers. La maison n'a pas vocation première à l'exercice d'une activité professionnelle. C'est avant tout un lieu de repos. C'est un lieu de repos, une maison d'habitation. C'est un lieu de repos. L'Église est appelée maison spirituelle parce que c'est la sphère spirituelle. Le lieu où hommes et femmes se retrouvent pour se détendre, se reposer, se restaurer. C'est ça une maison. Une maison, c'est faite pour nous abriter et pour nous permettre de nous détendre, de nous reposer, de nous restaurer. Voilà ce que l'Église devrait toujours être. Et là, je dois dire, et nous en avons eu la démonstration ce matin, que l'Église de Kevin remplit sa vocation de maison spirituelle. Agnès et moi, nous pouvons en témoigner. Car quand nous nous sommes présentés ici, il y a 2 ans maintenant, nous n'étions pas en bon état. Nous étions blessés de cette blessure dont il a été question tout à l'heure par la bouche de Juliette. Mais cette blessure, elle est aujourd'hui cicatrisée. Et je pense que ce don était pour une autre personne, parce que pour nous, nous pouvons témoigner que nous avons été guéris, que nous sommes bien guéris, que la cicatrice est belle. J'étais ouvert dans l'eau il y a, comment dirais-je, quelques années de cela, sur 10 centimètres, voilà. Hein. Et quand je vois pas le chirurgien, mais le dermato qui avait programmé cette intervention, il me dit à chaque fois, oh, quelle belle cicatrice. Eh bien oui, pour nous la cicatrice est belle parce que Dieu y a travaillé, parce que Dieu est intervenu et parce que dans ce lieu, nous avons été accueillis, nous avons été reçus, entourés et aimés. Et je puis vous dire que la plaie du cœur d'Agnès et la plaie du cœur de Jean-Louis étaient énormes. Quelque chose d'énorme qui aurait pu faire que je perde pied. Mais Dieu a été là. Il n'a pas permis que l'on s'égare. Une maison spirituelle parce que les âmes y sont nourries, restaurées, soignées, encouragées. Lieu aussi, et c'est très important, où le pain qui nourrit l'âme est mis à notre disposition. Le pain est sur la table, comme ce matin, en cet instant, pour être rompu et partagé. Alléluia. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, l'Église est par excellence le lieu où la parole de Dieu doit être invariablement la motivation première de nos rencontres. La parole de Dieu ne peut être remplacée, substituée, mais elle doit faire l'objet de nos recherches, de notre méditation. L'Église est aussi le lieu où chacun devrait s'employer à être le serviteur de l'autre, Dieu où l'on s'inquiète, se préoccupe du bonheur de l'autre, de son bien-être spirituel, moral, physique. Un lieu où la prière pour les malades a sa place et où la cure d'âme se pratique. Lieu, je le redis, où les blessures sont soignées, les plaies refermées. Alors, Diana, courage. Hein. Ça va se cicatriser, ça va se refermer et ça va se cicatriser. Alléluia. Lieu où hommes et femmes se réconcilient. Voilà la vocation de l'Église de Dieu. Un espace de paix, de sécurité, de bien-être, jamais un lieu où l'on s'affronte, se déchire, comme nous en avons été les témoins et les victimes précédemment. Nous sommes exhortés à nous édifier nous-mêmes. Édifiez-vous vous-même. Rien ne doit être négligé, d'où le rappel de quelques principes concernant cette construction qui s'édifie. D'abord, chaque pierre que nous sommes a sa place et son importance. Et si l'une d'elles vient à manquer, l'édifice en est fragilisé. Il y a de plus un liant, indispensable. Ce puissant liant est celui de l'amour de Dieu déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qui nous unit, vous et moi, ensemble. Romains 5, verset 5. Et nous en témoignons, il y a dans cette assemblée de l'amour et un amour fraternel précieux. C'est Dieu qui l'a déposé dans vos cœurs, dans nos cœurs. Et puis il y a le fondement, nous sommes exhortés à ce qu'aucun fondement de substitution ne soit posé, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Savoir Jésus-Christ. Et puis troisièmement, Temple Saint. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le temple est la demeure des divinités. C'est l'habitation des dieux. Et les hommes ont édifié des temples, des cathédrales, pour leur divinité, leur mosquée aussi. Que déclarent les saintes Écritures à ce sujet ? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Acte 17, verset 24. Avec la précision, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et j'ai relevé, ça m'a étonné, ça m'a poursuivi. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia! C'est ce que nous sommes, le temple de Dieu. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que je ne dispose pas de mon corps comme je le veux, que je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps, que ce corps n'est pas un jouet, mais qu'il est de mon devoir de l'entretenir d'en prendre soin. Et que si ce corps est malade, je me dois de le soigner. La négligence n'a pas de place chez les chrétiens. Je n'ai pas non plus le droit d'attenter à ma vie, pas plus qu'à celle des autres. Mais il en est de même de mon esprit. Je dois veiller à ce que ma pensée soit saine. Et je n'ai pas le loisir de l'alimenter avec une nourriture quelconque. Les nourritures à notre portée aujourd'hui, par l'Internet, par la télévision, sont trop souvent souillées, nauséabondes. Redoublons, bien-aimés, de vigilance. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Ce texte que je cite constitue ce que l'apôtre a appelé la saine et sainte doctrine capable de garder nos cœurs et nos pensées. Quand nous nous réunissons comme ce matin, ce sont des petits temples individuels, entre guillemets, mobiles, hein. Nous sommes venus d'un peu toutes parts du département, ou même de plus loin, mobile, n'est pas figé. Mais nous formons pour Dieu ce temple saint qu'est l'Église. Ce temple saint où Dieu se tient. Je ne sais pas si vous réalisez qu'ici, nous sommes en la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose de grand. Nous sommes en la présence de Dieu. À l'écart du bruit et de l'agitation de ce monde, nous formons, vous et moi, l'Église. Alors, quelle est la vocation de cette Église à ce moment précis où nous sommes réunis? Quelle est sa vocation? Rendre à Dieu le culte d'adoration qui lui revient. Le concert de louanges que ces rachetés lui ont fait entendre tout à l'heure, rachetés que nous sommes, a eu pour effet de réjouir le cœur de Dieu. C'est à cela que nous sommes exhortés, chaque culte ayant pour but de glorifier Dieu par Jésus-Christ. Je viens au culte, et ça devrait toujours être présent à notre esprit, je viens au culte avant tout pour offrir et donner le meilleur de moi-même et non pour recevoir. Je viens d'abord pour donner et offrir à Dieu, ce qui n'empêche pas Dieu de donner et de bénir. Et il l'a fait ce matin encore. Un temple saint parce que notre Dieu est saint et que nul homme, s'il n'est sanctifié, ne peut l'approcher, d'où l'exhortation « Soyez saints comme je suis saint, car Christ qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Un temple saint où Dieu se tient et où l'Esprit se manifeste par les dons spirituel pour l'édification de tous. Cette construction, l'Église s'édifie dans la bienséance et avec ordre, car notre Dieu est saint et que la sainteté convient à sa maison. Nous sommes le temple saint de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui le déclare. On l'a relevé ensemble. J'ai été étonné, c'est ce que vous êtes. Et nous n'abritons pas n'importe quelle divinité, mais bien le Dieu vivant et vrai. Je conclus donc en rappelant cette affirmation, c'est ce que vous êtes. Alors ne soyons pas dans l'abattement. Si nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur, que la question de notre passé coupable a été réglée une bonne fois pour toutes à la croix, que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes, m'entendez, nous sommes ces pierres vivantes qui s'édifient pour former cet édifice de Dieu, cette maison spirituelle, ce temple saint que les Écritures appellent l'Église de Dieu. À mes yeux, mais certainement aussi à vos yeux, l'Église de Dieu, elle est belle. Elle est belle. Elle est colorée. Il n'y a pas de personne de trop de couleur ce matin-là. Mais elle est colorée. Si, pardon. Oui, elle est colorée. Elle est colorée. Elle est faite d'hommes et de femmes de tout horizon. C'est merveilleux. C'est un vrai patchwork parfois. Et je dis que c'est beau. Et je bénis Dieu de ce que cette église est magnifique, qu'elle est unique et elle est vivante, parfois brillante, mais elle est sainte et pure. C'est l'église. Ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais je vous exhorte pour terminer à aimer l'église, à la chérir. Et Jean-Marc disait tout à l'heure que le Seigneur avait parlé ce matin, bien juste au moment où j'ai été pour charger la voiture et ouvrir la porte de cette voiture, m'est venue cette pensée, et je pense que c'est là une parole prophétique, c'est-à-dire de la part de Dieu que je restitue. Ne la critiquez jamais. Ne critiquez jamais l'Église. C'est le joyau de Dieu pour lequel il a donné son Fils, Jésus-Christ, qui lui-même s'est donné en rançon pour tous. Donc ne la critiquez jamais. Et il y a certainement quelqu'un, j'ignore qui bien évidemment, je ne veux pas le savoir, quelqu'un parmi nous qui serait tenté peut-être de la critiquer. Je dis à ce frère, je dis à cette sœur, ne le fais pas, garde-toi, ne critique pas l'Église, car c'est le joyau de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la propriété de Dieu. Amen.